Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Bonsoir.
Depuis le début, c'est moi qui dis la vérité.
On n'est pas bien, paisible, à la fraîche, décontracté du gland.
Nous sommes une idée. Nous sommes Anonymous.
Non, pardon, j'avais les oreilles qui traînaient dans le couloir.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Salut les copains. Moi j'adore écouter des clics et des claques sur Europe 1.
Europe 1, 20h, 21h.
Des clics et des claques.
Guy Birenbaum, David Abiker.
Et bienvenue dans Des clics et des claques, l'émission qui trouve sur internet ce que vous n'avez pas le temps d'y chercher. Bonsoir à tous et salut à toi Guy Birenbaum.
Bonsoir à toutes et tous.
Alors on connaissait la lettre de motivation, on connaissait le mail de candidature, le CV bien évidemment, le CV vidéo, le CV anonyme. Mais voilà qu'arrive le recrutement sans CV, grâce à internet, grâce aux écrans. C'est un logiciel mis au point par MyJob Company pour Pôle emploi et qui permet de postuler sans être victime d'une certaine façon de son nom, de son manque d'expérience, de son absence de diplôme, bref, d'arriver avec pour seul bagage ce que l'on sait faire et être. Et c'est le logiciel qui apprécie vos aptitudes et vos attitudes sans discrimination. Pôle emploi va l'expérimenter dans les jours qui viennent. Ses concepteurs sont avec nous ce soir dans ce studio avec des experts en recrutement. Recrutement new age, hein, recrutement moderne, pas à la papa. Vers 20h30, si vous avez passé la journée sur pôleemploi.fr, Romain Dessalle débarque avec son info qui claque. Et juste avant 21h, Agnès Léglise offrira son cadeau à notre tête-à-clic. Il est à l'affiche de la série de Canal+, Kaboul Kitchen, qui a démarré lundi soir. Il est beau, il est très beau, même s'il est mal rasé, en couverture des Un Rock paru ce jour. Il a su se défaire de son rôle de millionnaire dans La Vérité si je mens. Notre invité s'appelle Gilbert Melki.
Des clics et des claques
sur Europe 1.
Bonsoir Gilbert Melki, rigole déjà.
Oui, vous me faites marrer.
Bon, tant mieux. Alors, c'est la classe, la une des Un Rock.
Super classe.
Vive la télé, vive les séries.
Ils ont fait une spéciale série en même temps, donc oui. Non, je suis très heureux, c'est la classe, non, je suis très flatté.
Qu'est-ce qu'on ressent dans son petit cœur d'acteur quand on voit une une comme ça d'un magazine?
Moi, je suis très très flatté, mon petit cœur d'acteur est réjoui.
Guy, c'est le mot de l'acteur.
C'est un cœur d'acteur réjoui.
Alors, quel est le mot de l'actualité du jour de l'acteur qui va être moins réjoui?
Oui, c'est moins réjouissant, acharnement, voilà. Acharnement.
Alors pourquoi?
Parce que... Cet après-midi, enfin toute cette journée-là, j'ai appris que Vincent Lambert, cet homme qui a eu un accident de voiture et qui a 38 ans et qui est tétraplégique, et on lui a refusé le droit de mourir dignement, et ça m'embête un peu, voilà.
Je le dis pour les gens qui nous écoutent et qui voient pas forcément sur la vidéo Gilbert, on en a parlé avant, ça vous mine vraiment. Bah, c'est pas une posture.
Non, c'est pas une posture du tout. Je trouve ça complètement dément que au 21e siècle, on puisse encore accepter ce genre de choses. Il y a quelque chose de religieux là-dedans, il y a quelque chose qui m'ennuie un peu. J'ai l'impression que ce n'est pas la raison qui est là.
Peut-être
c'est
l'éthique.
À plomber tout le monde.
Peut-être non,
pas du
non tout. Absolument
non,
pas.
Non, c'est très bien, c'est très bon, intéressant.
On laisse un silence après ce que vous avez dit, Gilbert Melki, mais c'est peut-être l'éthique ou une certaine forme d'éthique qui est derrière cette inertie ou ce que vous considérez comme une inertie des choses, Gilbert Melki. On passe à toute autre chose. Si vous n'étiez pas sur Internet aujourd'hui, Gilbert Melki, une histoire qui va apprendre à Johnny et Laetitia Hallyday, mais également à tous les internautes, qu'il faut se méfier des photos que l'on met soi-même sur Internet.
Alors, chers auditeurs, si vous ne le saviez pas, le couple Hallyday adore poster sur Internet, sur Instagram, sur Twitter, des photos de la famille, de tous, en voyage, en concert, en vacances, pour entretenir le lien, ce qui est bien naturel, avec les fans de Johnny. Sauf que Johnny est censé être résident principal en Suisse pour y payer ses impôts et être en règle avec le fisc français.
Et pour bénéficier du statut fiscal suisse, il faut résider 6 mois au moins en Suisse par an. Mais alors, quel rapport, Guy, avec les photos d'Internet que le couple a l'idée à poster comme ça?
Eh bien, j'y arrive. L'émission Sonar de la radio-télévision suisse vient de révéler que la géolocalisation et la datation des photos du foyer fiscal Hallyday trahissaient une présence plus qu'insuffisante sur le territoire helvète, comme on dit, pour bénéficier de la fiscalité local.
Et ça n'a pas loupé, le député socialiste français Yann Gallu a déclaré vouloir saisir le gouvernement pour une enquête fiscale sur le cas Johnny. Donc on vous le redit, méfiez-vous. Que vous soyez imposable, riche ou pauvre, de toute façon, méfiez-vous de ce que vous postez sur Internet et qui révèle un peu de votre vie privée. Gilbert Melki, vous postez des photos
rien,
de
jamais.
Votre portefeuille d'actions ou de votre coffre-fort sur Internet.
Non, jamais. Bon.
Ou un bulletin de paix même, une petite photo comme ça sur Facebook.
Non, je ne veux pas.
Bon, d'accord, il reste discret, je crois que c'est la voix de la sagesse, Gilbert Melki.
Oui.
Une exclusivité Europe 1 maintenant. Tout autre sujet, le Pôle emploi fera bientôt appel à la technologie d'une start-up française, évidemment, pour sélectionner online des candidats. Tout ça sans CV. Ce soir, on va vous expliquer le mode d'emploi.
Guy Berenbaum, David Abiker.
Des clics et des claques sur Europe 1.
Eh oui, au suivant, chômeur suivant.
Monsieur Brel.
Eh oui, chômeur suivant, avec un taux de chômage pareil en France, c'est un peu au suivant. Et on va vous parler ce soir du recrutement sans CV, assisté, aidé par Internet. C'est l'idée d'une start-up, Guy, que va bientôt recruter Pôle emploi pour mettre en place ce service. Quoi. Elle est déjà recrutée d'ailleurs.
Bah oui, c'est un logiciel mis au point par MyJob Company pour Pôle emploi qui permet donc de postuler et d'être mis en situation d'embauche sans avoir à justifier de son expérience, de son apparence et surtout de ses diplômes. Puisque le mode de sélection et d'évaluation des capacités des uns et des autres va s'appuyer sur le savoir-faire, le savoir-être, l'être même, et ne tiendra pas compte de votre curriculum vitae.
Et donc, et de tout ce qu'il y a dessus, toutes les informations qu'il y a dessus, c'est-à-dire votre adresse, vos diplômes, vous aimez faire de la bicyclette, de la natation, votre nom à consonance.
Même votre photo.
Évidemment, la photo. Alors ce soir, pour la première fois, on va vous expliquer comment ça marche, parce que c'est tout nouveau, ça vient de sortir, ça a été annoncé incidemment hier par Pôle emploi dans une conférence, et évidemment, nous, on s'est rué sur cette information qui a transpiré via une vidéo d'Internet. Et on a avec nous ce soir trois experts de ce qu'on peut appeler le recrutement innovant, c'est-à-dire d'autres formes que les formes classiques pour recruter, que la petite annonce papier, que le CV classique avec la photo et l'entretien. Bonjour monsieur, vous avez les mains moites. Bon, alors pour en parler avec nous, Grégory Herbé, il est PDG de MyJob Company, c'est l'homme de l'art aujourd'hui. Bonsoir Grégory.
Bonsoir.
Saïd Amouche, PDG de Mosaïque RH. Bonsoir Saïd.
Bonsoir à tous.
Et puis Jacques Froissant, bien connu des utilisateurs des réseaux sociaux, directeur d'Altaïd. Bonsoir Jacques.
Bonsoir.
On commence avec vous, Grégory Herbé. Vous avez quand même tous les trois un point commun, recruter autrement. Mais Grégory, d'abord, vous nous apportez une espèce de scoop méthodologique ou technique sur la façon de recruter, de sélectionner des candidats pour une annonce.
Oui, tout à fait. Mais MyJob Company a mis en place, a développé ce logiciel depuis un an de son côté et l'a proposé au Pôle emploi qui a vu tout un intérêt, notamment pour permettre de rapprocher les candidats de Pôle emploi.
Alors, fait quoi ce logiciel?
Le logiciel permet de faire rentrer le candidat dans un tunnel de sélection, mais pas de sélection du CV. Aujourd'hui, les gens ne savent pas faire de CV. Les questions les plus récurrentes des recruteurs, c'est comment faire mon CV. La plupart des gens qui recrutent, malheureusement, ne savent pas aussi lire un CV. Donc, on est parti de ce principe pour construire un logiciel qui va mesurer le savoir-être, le savoir-faire et tout un tas de petits détails qui polluent la vie du chercheur d'emploi, c'est-à-dire la géolocalisation du poste, le contrat, le temps partiel, etc., pour pouvoir matcher avec ce qui existe.
Alors concrètement, on va faire super simple.
Oui.
Moi, j'ai plein d'amis qui sont chômeurs. Moi, j'ai la chance de ne pas l'être. Que doivent-ils faire? Ils sont inscrits à Pôle emploi. Comment ça se passe devant l'écran, pas devant l'écran? Comment ça va se passer pratiquement?
On est tout seul face à son écran ou
comment
il y a un conseiller Pôle emploi et tout ça?
Alors, ça part du principe que, effectivement, le conseiller Pôle emploi va écouter le chômeur et va pouvoir mesurer en le faisant passer un certain nombre de tests, qui sont des tests de savoir-être, donc sociométriques, et de savoir-faire.
Ça veut dire quoi, savoir-être sociométrique? J'ai perdu.
Alors,
tout le monde.
Savoir-être et le test sociométrique, c'est-à-dire tout sur un ensemble de critères de l'ordre du comportement vis-à-vis d'une société, de son positionnement vis-à-vis de la hiérarchie.
C'est des questions. On
oui, coche
des,
voilà,
c'est des QCM, questions. C'est des choses comme
c'est
ça.
Des, oui, c'est un peu plus complexe que des QCM.
Et Grégory, ça se fait donc au Pôle Emploi, que ce soit.
Ça
clair.
Se fait, ça se fait à distance.
À distance.
Et donc le chômeur peut justement faire se créer un profil et être en adéquation
d'accord.
avec les offres.
Il n'y a pas besoin d'aller au Pôle Emploi.
Bah oui, un petit peu quand même, parce que le mission du Pôle Emploi, c'est l'accompagnement des, ouais. des chômeurs. Hein. Donc il y a forcément un premier rendez-vous, et puis ensuite après, les personnes peuvent répondre aux offres avec ce profil sans CV.
Gilbert Melki, vous passez des castings, vous avez passé des castings toute votre vie, de moins en moins parce que maintenant vous êtes une vedette. Mais le casting, c'est un mode de recrutement qui vous convient, vous, en tant qu'acteur. C'est la meilleure façon, ou vous pourriez passer par les fourches codines d'un ordinateur
au cinéma?
Bah pourquoi pas. Ou faire de la visioconférence.
Je pense qu'il y a des castings qui se font par Skype maintenant.
Ouais.
Je crois qu'il y en a qui se font pas mal d'ailleurs aux États-Unis, etc. Non, mais le casting, ça dépend pour qui. Mais ça dépend. Je veux dire, moi, je veux bien passer des essais.
À distance, des essais.
Non,
à distance.
Je veux passer à distance. Ouais. Oui, à distance, mais je veux bien passer des essais, mais. Non, moi j'ai toujours été un peu flippé avec le casting.
Ben moi, t'angoisse, insomnie, dents qui grincent.
Ouais, ça va pas être moi, ouais. Le mec il est plus canon, le mec est ci, le mec
est
ça.
Faut vous aimer tout de suite quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, sinon c'est pas possible. Donc voilà. Mais bon, le seul essai, les seuls castings que j'ai passé et que j'ai réussi, en fait, c'est pour La Vérité si je mens.
Comme quoi.
Voilà.
Ah ben, donc, il fallait en réussir.
Il fallait
vous avez réussi le bon, à mon avis. On va passer à la suite dans un instant. Le recrutement sans CV, quel avantage pour les chômeurs? On vous l'explique, tout de suite.
Au suivant.
Eh oui, chômeurs suivants, chômeurs suivants. On parle de recrutement ce soir dans Des clics et des claques, mais de recrutement sans CV avec Internet et le fondateur de MyJob Company qui met au point avec Pôle Emploi une méthode de recrutement via Internet. On passe des tests, on est mis en situation à distance et ça aide les employeurs à faire leur choix et à Pôle Emploi, j'imagine, à mieux orienter les demandeurs d'emploi, Guy.
Alors Jacques Froissant, vous qui êtes un pionnier du recrutement au temps d'Internet, on peut dire ça comme ça. Vous pensez quoi de la méthode que Grégory vient d'exposer, de cet outil au service des chômeurs?
Plein de bonnes choses, c'est un ancien stagiaire de chez moi.
Bon, tout est truqué, donc
mais
nous
c'est
arrêtons.
Incroyable.
Non, ce conflit d'intérêt est insupportable. Non,
on se croirait dans le cinéma,
studio.
Là, c'est piston non, et compagnie.
Quel piston et partons,
ouais, Gilbert Melki est curé qui la tape.
Gilbert,
c'est grave. C'est très grave.
Allez, Jacques Froissant.
Alors, la technologie qui est amenée par Internet amène effectivement à faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant.
C'est-à-dire
prendre un exemple concret. Au Pôle emploi, vous êtes inscrit dans une case. Mmh. Si vous êtes vendeur en boutique, vous perdez votre job, votre conseiller Pôle emploi, il va regarder que des offres de vendeur boutique. Mmh. Alors que vos qualités, telles que évoquées, ce que peut trouver le logiciel, le matcher le logiciel de Grégory, c'est de dire, il a un bon sens de l'accueil du client, c'est argumenter, c'est convaincre. Ça peut être les mêmes qualités qu'un télévendeur au téléphone. Ah, mais on va jamais lui proposer ce type de job. Alors que les logiciels aujourd'hui sont capables de comprendre les qualités nécessaires pour différents jobs et d'aller vous proposer des jobs auxquels vous n'avez pas pensé, ce qui va favoriser les choses. Et ça, on commence à le trouver dans d'autres, un site comme Capa.fr a le même type de technologie, LinkedIn l'a intégré quand on passe des
ordres. Ça, c'est les réseaux, un réseau social professionnel, LinkedIn. Voilà.
Donc vous dites, on a tiré que du positif dans la façon d'affiner grâce à Internet avec tous ces critères qu'on renseigne et la portabilité de l'écran, du clavier. Enfin, ça permet d'aller plus vite dans le repérage des annonces, dans le repérage des candidats. Ça abat beaucoup de boulot, quoi.
Alors, ça va enlever du côté du candidat une contrainte qui est d'aller chercher des offres d'emploi, c'est fastidieux, etc. Et on va lui suggérer des choses auxquelles il pense pas.
Ouais.
Donc, ça lui ouvre l'esprit et ça lui permet peut-être d'aller sur des jobs nouveaux dans lesquels il sera très bien. Et inversement, pour les entreprises, ça leur permet de s'ouvrir à des candidats sur leur qualité et leur savoir-faire, et moins sur des critères qui se peuvent être des critères discriminants et qu'on empile et qui servent à rien souvent.
Alors, on en parle avec Saïd Amouche. Saïd, vous êtes le fondateur de Mosaïque RH. Vous travaillez pour aider les jeunes des quartiers populaires à trouver du boulot. Vous avez même été repéré par Matignon pour vos méthodes et ce que vous avez expérimenté qui commence à porter ses fruits depuis quelques années. Qu'est-ce que vous pensez, vous aussi, de ces techniques?
Moi, je pense qu'on a besoin d'innovation sur des questions de chômage, lutte contre le chômage. Et c'est une bonne nouvelle pour la lutte contre le chômage et la favorisation, en fait, de la mise en emploi des gens qui ont envie de s'en sortir. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin aussi d'accélérer. On est quand même face à 3 millions de chômeurs au minima. Hein. C'est la source officielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut assez tranquillement dire que c'est un chiffre qu'on peut doubler hein, quand on rentre dans les autres catégories. Et je pense que il y a deux points forts que je trouve dans cette innovation. Un, c'est que enfin on va sortir de la réalité intrinsèque de chaque individu. Donc ça, c'est fort de pouvoir dire.
Qu'est-ce que vous appelez? On va sortir de la réalité intrinsèque de chaque individu.
On va plus se limiter au lieu d'habitation.
D'accord.
On va pas standardiser les. On a un problème en France. Vous savez
les looks, l'allure.
Exactement. On a un problème, c'est qu'aujourd'hui, une des raisons, il faut le dire, qui constitue la non-reprise, c'est qu'on a recruté des clones pendant des années. Et le clone, il est intéressant quand on est dans une dynamique en fait d'accélération d'un processus qui est maîtrisé. À partir du moment où on est en phase de crise, et donc faut réfléchir différemment, et faut se comporter différemment, eh bien on a un processus qui s'arrête. Et donc si à un moment donné, on a une machine à recruter qui ne recrute que des clones, et que des clones qui appliquent ce qu'ils savent déjà et qui ne marchent plus, eh bien on n'est pas en capacité de créer de la croissance. Donc moi, je suis fier d'être à vos côtés ce soir parce que je pense que cet outil va faire du bien à l'économie française.
Est-ce que vous pensez que, on a tous lu la littérature sur Internet et ailleurs sur les techniques d'entretien, la façon de se présenter, etc. Est-ce que vous pensez que la génération, vous, que vous fréquentez tous les jours dans votre cabinet Mosaïque RH, elle sera plus à l'aise, plus performante derrière un écran pour se présenter et être mise en situation dans un premier temps vis-à-vis des premiers recruteurs ou des premiers sélectionneurs?
D'après ce que j'ai compris, on est quand même dans du QCM, c'est-à-dire qu'on répond à des questions.
Questionnaire à choix multiples.
Hein, c'est ça, hein, on est dans des questions en grande partie.
On a du déclaratif, c'est-à-dire qu'est-ce que vous savez faire, est-ce que vous savez faire ce type de choses. On a aussi une validation par le réseau ou des gens qui ont pu travailler avec la personne qui est testée,
de certaines recommandations.
Voilà, c'est ça. C'est
du genre, demander à mes amis Facebook, quoi.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire, oui, bon, alors après, on essaye de faire en sorte que ce soit des référents. Par le passé. Mm-hmm. Donc les gens peuvent mettre un plus 1, etc. Et donc on peut cumuler un petit peu les recommandations. Et donc ça c'est au-delà du QCM. C'est, ce qui est connu, c'est ce qu'utilise le Pôle emploi américain, ça s'appelle le RioSec.
RioSec.
Oui, voilà. C'est un test qui est un test open source. Donc qui met en place un ensemble de questionnements autour de plusieurs valeurs qui sont des valeurs liées au fait que la personne soit artiste ou alors entrepreneur ou alors investigateur. Voilà. Et donc ça crée une carte un petit peu de la personne et non pas, ça ne limite pas à quelques lignes et quelques diplômes.
Et une carte qui est pas piégeuse, on est d'accord, qui est plutôt une carte ouverte, open à la individu.
Le but, c'est de ne pas piéger les gens. Parce
Jacques Croissant, brièvement, est-ce que ça veut dire que le CV, la lettre de motivation sont bientôt décédés?
Oui. Clairement, on en parle. Hein. On voit de plus en plus d'experts du recrutement comme nous qui disent le CV est mort. Et de plus en plus, ce matching correspond aussi à des réalités. Il y avait une entreprise américaine qui avait étudié l'ensemble de la corrélation de la réussite de ses employés avec l'exigence qu'ils avaient sur le CV. Et ils ont changé complètement leurs critères de recrutement puisqu'ils se sont aperçus qu'il n'y avait aucune corrélation entre leurs critères.
Alors, attendez,
et le fait
là,
que
je
les
traduis.
Gens réussissent.
C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient recruté sur CV des polytechniciens, des HEC, des Sciences Po. Ils s'apercevaient qu'ils performaient pas mieux que des gens qu'ils avaient recrutés sans regarder le CV.
Voilà, plutôt moins bien que les.
Mais il y a des recruteurs qui disent que le CV sert à rien.
De plus en plus, moi je m'attache.
C'est une bonne nouvelle.
De plus en plus à les compétences.
La lettre de motivation aussi, c'était un petit peu.
Ah, vous avez, Gilbert Melki est contre la lettre de motivation.
Ouais. La lettre de motivation, c'était quelque chose. Hein.
Ouais.
Surtout postuler pour un poste, je sais pas,
Gilbert Amel, qui vous en avez écrit
quoi. Bien sûr que j'ai écrit, j'ai écrit pas mal de lettres de motivation dans ma vie.
Ah la vache.
Oui.
Ah oui, vous avez l'air consterné, hein.
Ah non,
il y a de quoi.
Non, mais ça dépend pour quel boulot, hein, la lettre de motivation.
Mais vous étiez fait pour être acteur, pour faire directement l'entretien de motivation. Jacques Frassin, on va revenir à ces vieux outils, nouveaux outils. Chômeur, recruteur, conseiller à Pôle emploi, proche de demandeurs d'emploi, vous nous écoutez, vous restez avec nous. Le recrutement sans CV fait bouger Pôle emploi.
Au suivant
avec Jacques Brel. Retour dans Des clics et des claques où nous recevons le concepteur d'un outil bientôt testé par Pôle emploi et qui consiste à recruter sans CV. C'est les nouvelles formes de sélection. Ça ressemble un peu à des tests online, mais avec des questions plus subtiles et moins discriminantes.
Mais alors moi j'ai quand même une question un peu ennuyeuse. Grégory, tout le monde sait que les conseillers de Pôle emploi, ils sont absolument débordés de travail, pour ne pas dire submergés. On sait qu'ils ont, je crois, chacun 200 personnes sous leur responsabilité. Est-ce que l'outil, il va les soulager ou est-ce qu'il va au contraire leur en rajouter par-dessus la tête ?
Bien sûr, il va les soulager. Le but d'un conseiller Pôle emploi, c'est aussi de chercher les offres, pouvoir les conseiller à ces chômeurs. Là, le matching va le faire tout seul. C'est aussi ça le but, c'est de pouvoir.
Vous avez utilisé le mot matching plusieurs fois. Le matching, c'est en fait faire caler l'offre et la demande.
Voilà, c'est un peu comme un puzzle, hein. C'est-à-dire deux pièces d'un puzzle. Et ben voilà, on va pas être obligé de chercher pendant des heures. On va immédiatement pouvoir les faire se rencontrer.
Et alors, Pôle emploi, est-ce que les gens qui recrutent et qui ont des annonces, ils pourront, si j'ose dire, renseigner les tests de manière à ce que les chercheurs puissent les faire eux-mêmes directement.
Il y a toute une partie de un recruteur très spécifique va vouloir vérifier si une personne a des qualifications, de soudeur, et donc va poser certaines questions un peu pièges du secteur pour savoir si la personne a déjà été sur le terrain.
D'accord.
C'est possible.
Saïd, est-ce qu'un tel outil, à votre avis, va permettre de lutter contre les discriminations dont sont victimes les jeunes, les vieux, les gens de couleur, les gens qui ont un nom à consonance étrangère? On parlait tout à l'heure même de ce qu'on repère à l'adresse.
Comme disait Coluche, tous les gens comprennent pas en stop, quoi. Voilà. C'est un peu ça. Hein. On est dans le studio Coluche.
On n'est pas pour rien dans ce studio. Est-ce que vous avez bon espoir que ce soit le genre d'outil qui puisse permettre ce genre d'amélioration qui sont plus que nécessaires?
Moi, je pense que c'est un outil qui va rétablir un peu plus l'égalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on cherche du boulot, il y a aussi un vrai phénomène de concurrence déloyale, si je puis dire.
C'est-à-dire que
si j'ai fait la bonne école parce qu'on m'a bien conseillé quand j'étais collégien, qu'on m'a bien orienté parce que j'ai des parents qui sont assez fortunés ou qui ont les moyens ou en tout cas qui m'ont donné l'information pour pouvoir comprendre ce dont on va attendre de moi dans 10 ans, j'aurai un beau CV. Et le CV d'ailleurs, avant que je sorte du système éducatif, du diplôme, on va m'apprendre à me présenter, à le créer, à le fabriquer. Et donc du coup, je suis en avance par rapport à la grande majorité. Et de l'autre côté, on a des universitaires, on a des gens qui sont d'origine modeste, on a des populations qui apprennent en marchant. Et donc du coup, on a un phénomène en fait de déséquilibre sur le marché du travail. Et il y a une fausse concurrence. Et le deuxième point, il est lié tout simplement en fait aux critères. Aujourd'hui, je rappelle qu'on a un code qui réprimande il y a 19 critères qui sont réprimandés et notamment l'origine d'habitation. On sait qu'aujourd'hui, à un moment donné, il y a une statistique qui est sortie en juin dernier qui explique que à compétence égale, c'est-à-dire qu'on a le même type de compétence, hein, à compétence égale, un candidat originaire de la Seine-Saint-Denis va avoir 3 fois moins l'accès en fait à un entretien de recrutement qu'un candidat de Paris. Et donc là, qu'est-ce que c'est que si ce n'est être de la discrimination? Donc on voit bien que c'est une espèce de deuxième sanction qui s'impose. Et ce type d'outil, il permet en fait à tout le monde de pouvoir rentrer dans la course. Et on est dans une compétition saine.
Eh bien, longue vie à la mise en situation. Vive les outils internet qui permettent de recruter, pas à l'aveugle, mais sans discrimination et avec des mises en situation. Une génération qui a plus l'habitude de l'écran que de faire des numéros de claquettes dans des bureaux avec les mains moites. Merci à vous trois d'avoir explicité ces recrutements innovants. Grégory Herbé, PDG de MyJob Company, Saïd Amouche, PDG de Mosaïque RH et Jacques Froissant, directeur d'Altaïd. Dans un instant, on va parler avec Gilbert Melki. Ce sera notre tête-à-clic. Il est à l'affiche de la nouvelle série, la nouvelle saison de Canal+, Kaboul Kitchen. Et puis, surtout, il fait la une des Inrocks. Mais juste avant, l'info qui claque avec Romain de Salles de Time to Sign Off.
Des clics et des claques
sur Europe 1.
Ah, bonsoir Romain de Salles.
Bonsoir David Abiker.
Vous allez bien?
Je vais bien, oui.
Alors, je dis c'est zizi.
Ah, je dis c'est zizi. Et c'est une excellente nouvelle pour nos neurones.
Dites-nous pourquoi.
Figurez-vous, David, que deux équipes de scientifiques, l'une américaine et l'autre sud-coréenne, en menant des recherches indépendantes, sont arrivées à la même conclusion. Le sexe rend plus intelligent. Les Américains.
Voilà pourquoi Guy est si futé. Voilà. C'est dingue.
Vous allez voir.
Je le savais. D'accord.
Alors, les Américains ont démontré que chez les rats d'âge moyen, en gros, vous et moi, David.
Des rats, merci bien.
Oui, faire l'amour permet de stimuler la fonction cognitive de l'activité de l'hippocampe.
Traduction.
La partie du cerveau où la mémoire longue se forme. Uh-huh. Les Sud-Coréens confirment totalement cette conclusion en montrant par leurs expériences que chez les souris, copuler permet de régénérer la mémoire en augmentant la neurogénèse, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones.
Wow.
Alors David, si vous voulez vous réveiller plus intelligent demain matin, vous savez ce qu'il vous reste à faire ce soir.
Ah ben, je vais immédiatement en parler à mon épouse être sûr qu'elle se souvient de ce qu'on pourrait faire pour se souvenir que les souris sud-coréennes ont de la mémoire. Enfin, je crois que j'ai pas tout compris, mais
non,
enfin, faites l'amour.
Je ne crois pas.
Faites l'amour,
faites
vous ferez.
Vous comprendrez.
Voilà, exactement, vous comprendrez les choses beaucoup plus vite. Dans un instant, on va demander à Gilbert Melki s'il fait l'amour souvent pour être un acteur plus intelligent. Non, je plaisante, c'est notre tête à clic. On va lui parler de sa dernière série, Kabul Kitchen, sur Canal+. Ça a commencé lundi et il y a une douzaine d'épisodes que les fans attendent avec la plus grande impatience.
Europe 1, 20h, 21h. Des clics et des claques. Guy Birenbaum, David Abiker.
C'est bon ça? Ah bah c'est super bon le générique.
C'est le générique, encore un petit coup, encore un petit
allez,
coup.
Allez, allez, encore.
Elle a démarré lundi la deuxième saison de Kabul Kitchen sur Canal+, où Gilbert Melki incarne Jackie, le boss d'un restaurant installé en Afghanistan à Kaboul. Gilbert Melki est également en couverture des Un Rock et on a plein de questions à lui poser, à la fois sur cette série, sur sa carrière, sur sa vie, sur l'actualité qui agite Internet. Mais avant, Guy, tu as fouillé le passé cybernétique et sur Internet pour savoir ce qu'on dit de Gilbert Melki.
Mais non, là, c'est pas compliqué. C'est tellement une espèce de frappe énorme que Kabul Kitchen est partout sur Internet. C'est pas compliqué. On appuie Gilbert Melki, c'est Kabul Kitchen. Alors, avec les Un Rock, évidemment. Alors, il y a les accros qui attendaient la saison 2 comme des dingues. Et puis, il y a ceux qui connaissent pas. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu leur raconter, Gilbert, sans trop dévoiler ce que c'est, quel est votre personnage, comment ça se passe?
Jackie Robert est un ancien journaliste qui a fait de l'humanitaire et qui s'est reconverti dans la restauration. Après...
Il dit ça avec un air, ouais. C'est incroyable. Il fait...
Et après... Après l'invasion américaine en 2002, il a senti la bonne affaire. Il s'est installé à Kaboul et il a ouvert un restaurant pour les expatriés, les journalistes, les espions,
les
ONG, les militaires, les humanitaires, tout ça, où ils pouvaient aller boire une bière et aller se baigner dans la piscine.
Donc, et même manger du porc.
Donc il faisait cuisiner du porc à ses cuisiniers afghans. Donc dans la première saison, il y a un épisode comme ça
problèmes.
Où ils font la grève parce qu'ils ne veulent plus de.
Bah oui, bien sûr.
Mais c'est normal.
Bah oui, c'est normal.
Ça. Je comprends. Mais en même temps,
c'est
péché, c'est les affaires. Et quoi encore?
Et donc il lui arrive plein d'ennuis, quoi, parce qu'évidemment, il pense arriver dans un pays de cocagne, faire du business, voilà, et il va avoir des problèmes.
Sa fille qu'il a abandonnée il y a bientôt, il l'a abandonnée quand elle avait 5 ans, et il la retrouve. Et elle veut construire une école pour filles dans un quartier où habite un mollah intégriste, il est hors de question que ce mollah laisse
construire. Les filles aillent à l'école.
Les filles aillent à l'école. Donc sa fille revient. Il l'a abandonné, il va être confronté au mollah, il va être confronté aux espions.
La CIA, les services français.
Voilà,
et il a rien demandé, lui, en plus.
C'est pas qu'il a rien demandé, il cherche un peu quand même les ennuis.
Il moyenne.
Voilà, il fait son business.
Il était là pour le business et il est pris entre deux feux. Alors, il y a ceux qui la connaissent pas, la série, puis il y a ceux qui comprennent pas vraiment son humour sur le Huffington Post. Dans son édition Maghreb, parce que le Huffington Post a une édition au Maghreb, un papier d'aujourd'hui est titré « La deuxième saison de Kabul Kitchen n'est pas du goût de tout le monde ». Et ce papier du Huffington Post Maghreb reprend un site algérien qui parle d'une série anti-islam. Est-ce que vous avez eu vendent cette incompréhension et que dans certaines parties du Maghreb, du monde musulman, la série, pour ceux qui la regardaient vraiment attentivement, pouvait gêner ou ne pas faire rire.
Non, je crois que c'est un papier. Oui, hein, oui. C'est un papier, je pense que...
Et quelques réactions sur les réseaux sociaux, en fait, derrière le papier.
Ah, d'accord. Ben, oui, non, c'est un papier. Je pense que... Non, j'ai pas eu vent du tout de réactions anti-islam. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément de musulmans qui adorent cette série. Ça dépend à qui reçoit cette série, qui, avec quelle idéologie. Voilà.
Tout le monde en prend plein les moustaches, de toute façon.
C'est ça. De toute façon, les Occidentaux, les Américains...
C'est ce que j'allais dire. C'est dans la série, tout le monde en prend plein la gueule. Les Américains, les Français, les services, les Afghans, les Talibans. Alors, question, est-ce que c'est pour être équilibré et politiquement correct ou c'est parce qu'il n'y a pas de gentils?
Je crois que... Non, je pense que ceux qui sont gentils, c'est les Afghans. Voilà, dans l'histoire. Et je pense que tous les serveurs afghans qui travaillent pour mon personnage, pour Jackie, sont gentils, un petit peu roublards, mais gentils. Mais non, je pense que tout le monde en prend pour son grade parce que voilà, c'est un pays en guerre. Lui, il arrive pour ouvrir un business. En même temps, c'est le seul humanitaire. Il amène un peu les droits de l'homme dans son bistrot. C'est vrai, hein, il fait attention aux droits de la femme, etc. Donc c'est quelqu'un qui c'est un humanitaire qui fait un peu de business.
Alors Gilbert Melki, il faut que vous sachiez, on est à la radio et vous ne connaissez pas en dehors de la radio ou de ce que vous pouvez voir à la télévision. Mais s'il va pas bien, ça se voit tout de suite sur son visage. Et quand il va bien, ça se voit aussi. Et en ce moment, il va bien, il est lumineux,
il rayonne.
Et évidemment, c'est un rôle pour lui.
Ça m'échappe.
Mais ça nous fait plaisir.
Ah bon,
on est content.
Ça nous fait plaisir.
Non, mais ça m'échappe.
Et alors, dites-nous, Gilbert, ce qui vous fait kiffer dans ce rôle. Qu'est-ce qui fait que ça vous rend heureux? Si ce n'est, évidemment, c'est le premier rôle, ça fait toujours plaisir. Mais enfin, qu'est-ce qui vous rend heureux dans ce personnage?
Ce qui me rend heureux dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui n'est pas seulement que dans la comédie. C'est un personnage qui réfléchit, c'est un personnage qui prend parti. C'est un personnage, qui ne se laisse pas faire. Et ce que j'aimais bien dans ce personnage, c'est ça, c'est que j'avais demandé à héroïser le personnage dans la deuxième saison qui ne se laisse pas faire entre la CIA, la DGSE.
Je confirme.
Voilà, c'est quelqu'un qui... C'est, le business, ouvrir un business n'empêche pas de réfléchir et avoir des idées politiques. Voilà.
Il est entre baroud et loose, en fait.
Il est entre le baroud et loose, mais parce que la loose, il se cache derrière la loose. Je pense qu'il est plus intelligent. C'est un faux loser. Ouais, il fait attention.
Et quand on compose un Jackie, qui est quand même, j'invite les gens vraiment à aller voir parce que le personnage est vraiment intéressant, quand on compose ce genre de Jackie, on a qui en tête au cinéma ou dans d'autres séries? On se dit, ah, il faudrait que je fasse un peu. Non,
quel acteur vous inspire?
Non,
quoi.
Mais il y avait plein de. J'avais plein de références de... Oui, l'acteur de série, j'ai pensé au Soprano, j'ai pensé à Bogart dans Casablanca.
J'ai lu Montand dans Le Sauvage.
Montand dans Le Sauvage, parce que je sais pas, peut-être que je ne connais pas tout, hein, mais je me souviens pas d'avoir un Français qui part très loin, comme s'exiler Montand. Comme Montand.
Et vous avez un peu une gueule à la Bogart. On vous l'a dit.
À la Bogart.
Hein?
Ouais.
C'est vrai. C'est vrai. Ça vous plaît?
Non, mais j'aimais bien le fait que dans l'épisode 5, il ait un smoking blanc, etc., comme Bogart, avec un gros nœud papillon, comme dans les films de Cassel. Kaboul Kitchen, on pouvait vraiment avoir des références de Cinoche avec
Kaboul Kitchen. Et vous faire plaisir comme un gosse.
Non, mais bien sûr, évidemment, je me fais super plaisir dans cette série.
Ils disent pas, putain, mais Melki, tu nous emmerdes avec ton nœud papillon et ton blazer?
Qui ça, les gens?
Ben non, les réalisateurs, les
pas
gens.
Du tout,
pas
non,
du
non.
Tout.
Mais pas du tout.
Bon.
Mais non, mais pas du tout, parce que, franchement, si on fait une série qui se passe en Afghanistan, tournée au Maroc, à Casablanca, on a toutes les références, on peut avoir des références comme Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, le film sur l'Irak, etc. Non, mais, franchement, moi, je me suis super amusé à faire ce personnage.
Eh ben même en radio,
ça s'entend.
Même en radio, ça se voit et ça s'entend. Gilbert Melki est à l'affiche de la saison 2 de Kaboul Kitchen. Restez avec nous dans un instant. On va essayer de le mettre de mauvaise humeur. On n'y arrivera pas. On questionne Gilbert
impossible.
Melki sur les séries, sur l'humour en France et puis sur sa vie et puis
bien
sur la
sûr.
Psy.
Moi, j'adore cette musique.
Ça lui va bien, Autain.
Oui.
Hein, Gilbert Melki, c'est notre invité dans Des clics et des claques. Dès qu'on passe cette musique-là, oui, ça lui va bien. Elle, oui, elle l'habille comme un smoking de Bogart ou un nœud papillon dans Casablanca. Ouais. Mais là, c'est pas Casablanca, non, c'est Kabul Kitchen saison 2 sur Canal+. Il y incarne Jackie, un restaurateur expatrié en Afghanistan qui tente d'y faire un peu de business, un peu loser, un peu baroudeur et qui veut pas se laisser faire. Ouais. Guy, on continue à parler de cette série.
Ouais, alors on a l'habitude, évidemment, en France, dans l'auto-dénigrement permanent, de dire du mal des séries françaises, bien évidemment, et de chanter les louanges des séries anglo-saxonnes, alors évidemment.
Ouais, en même temps, fois c'est vrai.
Alors, des fois, justement.
Ouais.
Alors,
sur celle-là.
Alors, non, celle-là, ça se passe assez bien, mais qu'est-ce qui fait que ça se passe bien quand on regarde, effectivement, un certain nombre de séries où ça se passe moins bien? C'est quoi la recette? Est-ce qu'il y a un truc? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne?
Non, parce que je pense que le sujet de Kabul Kitchen, qui est ancré dans la réalité de l'actualité d'aujourd'hui. Enfin, je veux dire, bon, voilà, l'Afghanistan, l'islam, les talibans. Enfin, on entend tous les jours des choses, voilà, des otages qui sont libérés, des otages qui sont kidnappés, etc. Donc, c'est une série qui est dans la réalité des choses. Et comme on voit un Français ouvrir un bistrot dans un pays en guerre, en Afghanistan, à Kaboul, effectivement, il y a une projection de pas mal de gens en France, de Français de toute origine d'ailleurs, qui se projettent dans ce mec, qui se dit mais qu'est-ce qu'il a été faire là-bas, quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé, quoi? Pourquoi il va ouvrir un truc comme ça? Voilà. Donc je pense que ça, et puis ça crée aussi des situations où la géopolitique est présente, où on parle de plein de choses, on parle aussi de comment dire, du partage par les grandes puissances des richesses de l'Afghanistan, de l'uranium.
Oui, il y a un épisode autour de la mine.
De la mine comme ça où les Américains veulent prendre cette mine, mais le colonel Amanoula, joué par Simon Abkarian,
qui est assez impressionnant,
qui est super, qui va se voilà, c'est aux Afghans, ça appartient aux Afghans. Donc il y a pas de, comment dire, c'est une série aussi qui parle des Afghans, qui sont pour les Afghans, c'est pas seulement un regard occidental, quoi.
Gilbert Melki, on a vu que l'humour d'une série pouvait être assez mal interprété. Hein. On sort depuis quelques semaines d'une séquence Dieudonné absolument incroyable qui fait qu'aujourd'hui, tout trait d'humour appuyé visant une communauté, une minorité, une couleur, un drapeau, hein, peut être très mal vécu. On peut même plus faire une blague sur les taxis, ils tombent dans les pommes. Alors, vous imaginez, sur l'islam, sur les juifs, etc., etc. Comment vous avez vécu, vous, ça, qui avait quand même un peu le sens de l'humour, malgré tout?
Comment j'ai vécu ça? Je l'ai mal vécu, en fait. Je l'ai mal vécu dans le sens... l'histoire de Dieudonné, les dérapages de Dieudonné, tout ça.
Bah oui, vous me dites j'ai mal vécu.
Non, j'ai très très mal vécu. Ouais. J'ai très mal vécu ça. Quoi vous dire? J'ai l'impression que rien n'a changé, quoi. Qu'on est encore dans les années 30, qu'il y a le même antisémitisme... Voilà, que rien n'a changé, les mêmes mots, on croirait dans un truc de dingue. Et je voudrais dire que il y a un truc qui me rend assez dingo, c'est-à-dire que c'est ce fameux complot juif. Depuis que je suis petit, j'entends ça, depuis que mes parents, avant tout le monde, entendait ça. Mais le complot juif de quoi, d'où, de comment, de qui, comment ça se passe, un complot juif? Moi, ma grand-mère était marchande de 4 saisons, je veux dire, elle nous donnait des éranges pour manger, je veux dire. Mais on n'avait pas de fric, on n'avait rien, quoi. Je trouve ça complètement aberrant que les gens manquent autant d'intelligence.
Marchande de 4 saisons où?
Rue Saint-Antoine, vers la Bastille. Non, mais c'est vrai. Et donc, si vous voulez, ça me rend complètement dingue, parce que comment on peut imaginer tout ça? Comment des gens sains d'esprit puissent se dire, voilà, il y a un complot juif? Non, mais ma grand-mère, elle a aucun cas, elle a pas comploté. Hein,
vous avez rencontré, vous, personnellement, l'antisémitisme ou le racisme? Vous l'avez rencontré, vous, personnellement?
Écoutez, personnellement, moi, jamais traité de sel juif en France. Jamais. 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 Mais vraiment jamais. J'ai toujours été... Non, franchement, jamais. Mais j'entendais des choses. Mais il y a toujours un amalgame. Il y a toujours un amalgame avec l'argent, les juifs. Enfin, tout ça me saoule. Je trouve ça débile. Voilà,
et
je trouve ça complètement
jetons,
débile.
Justement, quand vous avez fait Patrick Habitbol dans La Vérité si je mens.
Mais tout le monde l'a adoré, Patrick Habitbol. Alors, même les antisémites.
Mais pourquoi?
Même Dieudonné. J'ai rencontré Dieudonné il y a 15 ans ou 17 ans de ça, dans un festival. Il vient me voir. Il me fait putain, je t'ai adoré dans La Vérité si je mens. Donc, je ne dis pas antisémitement. Peut-être que, voilà, ouais. Mais peut-être qu'après m'avoir vu, il est peut-être devenu antisémite. J'en sais rien.
C'est peut-être moi,
j'en sais rien. Mais bon, bref, voilà, tout ça est complètement dingo, tout ça est débile.
Est-ce que vous pensez pas, justement, on parlait évidemment de Patrick Habitbol et de La Vérité si je mens, mais qu'on a besoin de comédies comme Intouchables, comme La Vérité, comme Les Ch'tis même aussi, pour montrer notre diversité avec humour et empathie?
Ouais.
Pas plus, ouais. Non, rapprochez-vous.
Non, pas plus. La diversité entre un gars du Nord et un gars du Sud, oui, effectivement, ça peut donner une bonne comédie, mais bon, voilà.
Mais ça change. Fondamentalement, vous pensez que ça change rien, que le Cinoche peut rien pour ça?
Enfin, pas cette...
Vous dites qu'on va pas faire des films pour régler le racisme, quoi, c'est ça, oui.
Non, enfin, je pense pas que sinon on l'aurait réglé depuis longtemps. Hein.
Oui, c'est vrai.
Chaplin l'a fait il y a longtemps.
Ouais. Il a tout dit d'ailleurs. Oui. Alors, dans cette série sur Canal+, j'y reviens parce que il me revient. Il y a une scène où vous êtes sur le divan avec une psychanalyste que vous sautez juste après, hein, enfin que vous séduisez
à plusieurs reprises.
Calmez-vous.
Quel type d'homme vous êtes sur les tournages? Vous nous avez confessé tout à l'heure, vous aviez le trac, vous êtes d'une humeur particulière, est-ce que vous êtes un traqueur, est-ce que vous êtes nerveux, inquiet?
Ça dépend des tournages. C'est de moins en moins, mais en même temps, il en faut un peu quand même. Ouais. Hein. Faut pas arriver comme ça. Ouais. Il faut arriver un peu tendu. Non, pas tendu. Le trac, c'est pas être tendu. C'est juste, voilà, on va travailler un personnage, on va rentrer dedans, comment on va faire, quoi. Voilà.
Mais métier d'acteur, c'est pas un métier simple. Est-ce qu'il faut se connaître et justement vraiment passer sur le divan? Comme ce personnage, c'est une question un peu indiscrète.
Je crois pas. Non, je pense qu'il y a des acteurs qui passent pas sur le divan et qui s'en sortent très bien. Hein. Mm. Non, je pense pas. Je pense que chacun fait comme il peut, comme il sent. Hein. Je pense pas. Non.
On parle beaucoup de la vie privée ces derniers temps, des gens exposés, des gens en vue, des gens politiques. Vous êtes assez discret de ce point de vue-là. Quel est votre regard sur la pipolisation de l'information, sans en parler péjorativement ou négativement? Quel regard vous portez sur l'exposition nouvelle?
Vous voulez parler de quoi?
De ce qui arrive au président de la République, de ce qui est un peu une petite crise dans son quinquennat.
Écoutez, comment, je sais pas. Franchement, ça me... C'est pas que je m'en fous. C'est que c'est sa vie à lui. En même temps, il est président de la République. On lui demande, j'ai entendu des trucs complètement aberrants. Il a épousé la France, c'est la France qu'il a épousée. Voilà. Il s'occupe de la France. Oui, il s'occupe de la France. Mais bon, je pense qu'il peut s'occuper de la France et puis vivre sa vie comme il a envie de vivre, quoi. Voilà.
Alors, on a regardé tout l'après-midi, on a appris par cœur votre filmographie.
C'est gentil, ça me fait plaisir.
Et non, mais il y a un détail qui nous a échappé, nous avait échappé jusque-là, ouais. C'est que vous avez commencé avec Chabrol en 92, et puis qu'il a fallu 5 ans après pour faire La Vérité si je mens, c'est-à-dire qu'entre 92 et 97, vous avez dû sacrément bouffer un peu de vache enragée quand même.
Des pâtes même. J'ai mangé pas mal de pâtes, oui.
C'est vachement long.
Ouais, c'est long, mais c'est...
Surtout que vous n'étiez pas môme.
J'avais 30 et quelques, ouais.
Il y a eu le passage par l'Italie, et puis là, il y a ces 5 ans, et tout d'un coup, paf, ça explose.
Et ben finalement, ces 5 ans où j'ai fait pas mal de boulot, de métier.
Qu'est-ce que vous en avez fait de ces 5 ans, ouais?
Et ben finalement, je pense que inconsciemment, ça a été formateur, quoi.
Mais vous avez fait quoi?
Ah, j'ai fait, je sais plus, qu'est-ce que j'ai
92,
fait
92, 93, 94, 95, 96, 97. Dites, qu'est-ce que vous avez fait?
Qu'est-ce que j'ai fait?
Pendant 5 ans, vous avez erré, vous avez
J'ai travaillé dans des bars, j'ai travaillé dans des restos,
Vous avez été vendeur dans le sentier.
J'ai travaillé dans des instituts de sondage, vous en parliez tout à l'heure, dans des instituts de sondage. Chez BVA, je faisais des BVA, il y avait des petits flics derrière nous qui nous emmerdaient à nous dire, t'as pas assez fait de chiffres, t'as pas assez fait ça.
On posait des questions.
Par téléphone. J'ai fait ça, mais avant La Vérité, bien avant La Vérité.
Parce que c'est vachement long, ces 5 ans, ça nous a beaucoup étonné avec David.
Eh bien, ces 5 ans m'ont été...
Non, vous déconnez, ça vous a angoissé, ça a dû vous rendre malade.
Oui, ça m'a complètement rendu complètement dingue. J'ai été très très mal, je me suis beaucoup drogué, ça a été atroce. Mais j'en suis ressorti,
c'est vrai.
Ça a été dingue.
Quel comédien, il ne veut pas nous dire la vérité. Vous avez dû angoisser un peu,
très angoissé. Quand je suis arrivé sur le plateau de La Vérité si je mens,
c'est vrai.
Paf, c'était fini l'angoisse.
Sérieux?
Bah ouais.
Mais attends, un casting comme ça, vous avez dû...
Un casting comme ça, quoi?
Vous avez 5 ans de non-travail comme comédien.
Non, mais j'ai fait, je sais plus, oui, comme non-comédien, oui. Non mais attendez, j'ai fait d'autres choses, mais je m'en rappelle plus. Franchement, ouais. Je m'en rappelle plus.
Vous avez refoulé cette période.
Mais ça y est, j'ai refoulé tout ça.
Il faut oublier.
Tant mieux, parce qu'il est de super bonne humeur. On en profite. Gilbert Melki, c'est l'heure du cadeau d'Agnès Léglise. Il y avait le kiff, et là, il va y avoir le surkiff.
Ouais. Ah,
bon. Des clics et des claques sur Europe 1.
Cet orgue, David Abiker.
Ah ben, ces grandes orgues annoncent l'arrivée d'Agnès Léglise qui chaque soir offre à l'invité un cadeau trouvé sur internet. Agnès Léglise, ce soir vous faites un cadeau à Gilbert Melki et vous nous le gâtez parce qu'il est de bonne humeur et on aime ça.
Bonsoir. Alors mes camarades ne l'ont peut-être pas assez souligné, peut-être n'en sont-ils pas conscients, trop mal qu'ils sont, mais internet est clair, vous êtes le Georges Clooney français. Et l'agitation que j'ai notée chez certaines collaboratrice ce soir en est la confirmation.
C'est bon ça, hein.
Ça part bien.
Ce qui est marrant, c'est que c'est un truc familial d'être comparé à un immense acteur américain. Vous, c'est Clooney, mais votre oncle, c'était Buster Keaton, carrément. Oui, les auditeurs ne le savaient pas forcément, mais vous n'êtes donc pas le premier acteur de votre famille. Votre oncle fut votre précurseur, Claude Melki, né en 1939 et disparu il y a 20 ans, et qui a marqué de son empreinte discrète les films dans lesquels il a joué. Et si on le compare pareil à Buster Keaton, c'est aussi pour son jeu si peu bavard, mais si expressif, en particulier dans les films de Jean-Daniel Follet, comme L'Acrobate de 1976, où alors âgé de 18 ans, vous aviez fait de la figuration. Alors bon, j'ai essayé de trouver des extraits du film, hein, mais c'est impossible de le trouver sur internet, je crois qu'il existe en DVD, donc c'est sans succès. Et c'est alors dans un petit rôle, parce qu'il parlait très peu, donc c'est très très difficile de le trouver. Et je dois dire que j'ai trouvé dans la scène dans laquelle vous jouiez l'amant dans Vénus Beauté, hein, vous jouiez l'amant de Nathalie Baye et vous restiez pendant 3 minutes pendant qu'elle part, vous m'avez fait vachement penser à lui. Mais bon, bref, c'est donc dans un petit rôle que nous allons retrouver votre oncle dans une émission aussi mythique, hein, Dim Dam Dom, c'est de 1968, où il jouait un égoutier qui sortait de son trou. Et ce petit voyage dans ce temps perdu sera mon cadeau Madeleine du soir.
Ah, mais tu m'excuseras mon pote, hein.
Ben oui, moi je suis égoutier, toute la journée dans le trou. Mais quand je sors, je vois des jambes, des pieds, des chaussures, encore des chaussures, toutes bicolores. Ah, ben c'est la mode. Et l'autobus qui n'arrive pas.
Et la voix est quand même incroyablement ressemblante.
C'est la même, mais presque la même voix.
Vous pourriez nous la refaire un peu ?
Non. Non, mais ça me fait... ouais. Ça le fait, hein, merci. Hein.
Il faut dire, Agnès, que L'Acrobate est un film extraordinaire et que j'invite tous ceux qui n'ont jamais vu L'Acrobate et le rôle absolument phénoménal. Faites-nous envie, Gilbert. Bah,
vous avez parlé de vous pendant une heure, allez, vous pouvez parler bien
c'est
de
le moment
tonton.
De Claude.
Non, mais L'Acrobate, c'est l'histoire d'un garçon de bain qui va tomber amoureux d'une prostituée, qui va lui en faire voir de toutes les couleurs. Il y a Guy Marchand dans le film.
Et qui va apprendre à danser.
Et qui va apprendre à danser le tango.
Il veut danser le tango.
Il veut danser le tango. Et c'est vrai que Claude était un grand danseur de tango. Dans la famille, c'était des grands danseurs de tango. Tous bien danser.
C'est-à-dire.
Non, mais ils savaient danser, quoi. Les mecs qui savent danser dans la vie, il y en a qui savent pas danser. Bah, eux, ils savaient danser. Et donc, voilà. Et c'est vrai que c'est un film pour plein de cinéphiles, pour plein de cinéastes, une référence de la nouvelle vague. Voilà, c'est un film assez bien, quoi. Très bon film, plus que bien. C'est un grand film.
Vous aimez vous souvenir ou vous rappeler de ce tonton acteur, de ce tonton danseur ?
Bah écoutez, depuis que je fais la promo là en ce moment, oui.
Vous y pensez ? Ah, on vous en parle souvent ?
Oui, on m'en parle souvent. On parle souvent parce que bon, j'ai fait des interviews avec les Inrock.
Oui, ils en parlent.
Les Inrock connaissent bien ce film. Voilà. Oui, on m'en parle. On m'en parle toujours avec sympathie et voilà, avec respect et sympathie. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est le premier acteur que j'ai rencontré, moi, Claude. Voilà, c'est
vous
tout.
Vous étiez tout gamin.
Ben oui, j'étais tout gamin, donc j'étais fasciné par les acteurs et par le cinéma, etc. Et il y en a un qui est acteur, c'est lui. Donc c'est le premier acteur que je rencontre. Donc quand je le voyais, j'avais les yeux grands ouverts, etc. Donc j'étais très admiratif. Voilà, je voulais faire ça. C'est une espèce d'échappatoire. Hein. Ah. De partir un peu. C'est un peu. Voilà, on a envie de faire autre chose. On n'a pas envie d'être. Je sais pas moi. On a envie de s'épanouir autrement.
On veut pas vendre des oranges comme la grand-mère.
Il n'y a rien de gênant à vendre des oranges, mais on a peut-être pas envie de faire ça.
Allez, si vous voulez prendre la tangente un jour, vous faites comme Gilbert Melki quand il était enfant, sur les genoux de son tonton, il s'est dit « je veux être acteur et je ferai autre chose », comme ça, il dit Gilbert Melki. Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. Kaboul Kitchen, c'est 12 épisodes de 30 minutes.
Tous les lundis.
À voir, Guy. Tu as raison de le rappeler. Tous les lundis sur Canal+. Agnès Léglise, merci. Merci pour le cadeau. Guy Birenbaum, à lundi.
Et oui.
On recevra lundi Régis Geoffrey pour son roman déjà poursuivi en justice par Dominique Strauss-Kahn. Ça promet. Allez, bonsoir à tous. Bonsoir à Gilbert Melki.